Hubert, tiens, parce que c'est un personnage bordelais historique dans
si
la Résistance.
Si vous voulez, très vite, la salle des professeurs du lycée de Bordeaux était un foyer de résistance où mon ami Joubert, en particulier, qui était un peu cornichon, annoncé triomphalement qu'il y avait un sous-marin anglais qui avait débarqué, et tout ça sous les bienveillants d'une crapule beaucoup plus intelligente que lui, qui était le policier allemand, qui le surveillait, qui le couvrait.
La Rose.
La Rose. L'allemand, c'est Dose.
Mais la Rose, c'était le professeur.
Allez voir en Allemagne, Dose.
Avec l'idée, probablement, ce Dose, que la partie était perdue, qu'il fallait assurer ses arrières
en 42.
Par rapport avec l'autre camp.
Il en parlait, Joubert?
Il n'a pas parlé de cette sombre
histoire. Il dit que c'est 43, c'est pas 42.
C'est septembre.
Et c'est Dose qui lui a fourni le laissez-passer.
Oui, pour aller à Alger.
Il lui a permis d'aller à Alger, où il a été vite arrêté comme espion allemand.
Oui, c'est une histoire rocambolesque.
Il a par des gosses.
Une histoire rocambolesque.
Ils l'ont mis en résidence surveillée. Avez-vous connu Gabriel Delaunay?
Oui, bien sûr.
Alors pourriez-vous m'en parler? Parce que là,
Gabriel Delaunay, ma première rencontre, c'est à Bourges. Parce qu'il était professeur à l'école normale de Bourges. Il se préparait à faire une carrière. Alors, je l'ai rencontré à nouveau à Bordeaux, ensuite.
Oui, c'était
collègue. Après la guerre, je le retrouve, mon préfet des Pyrénées-Atlantiques, puis finalement préfet régional. Et c'est d'ailleurs à lui que j'ai dédié, je dois dire d'une façon probablement jugée insolente, à celui l'État, je lui avais dévié, à celui qui n'a jamais songé à être préfet ni soldat.
C'était gentil, ça. Mais...
Non, mais c'était de l'estime, en réalité. Je me disais... En réalité, je me fourrais probablement le doigt dans l'œil.
Je le pense sincèrement.
J'allais être agréable.
Mais au niveau de l'homme, là, vous l'avez connu en 41-42, il est parti après à Mont-de-Marsan. Il était engagé politiquement. Comment?
Avant la guerre, l'as connu.
À Bordeaux. Quand vous l'avez connu à Bordeaux?
Puisqu'il a fait de la résistance avec Ellul.
Je ne l'ai su qu'au lendemain de la guerre.
Pas Joubert alors. Il se vantait pas d'être résistant, lui.
Delaunay, plus discret. Je crois, mon collègue Joubert, il était sot, il se laissait manipuler par cette crapule de Dose.
Mais Delaunay n'était pas engagé face à ses collègues.
C'est-à-dire que tout ça, résistance s'est établie, il faut dire, bien après le...
Ton départ, tu as quitté Bordeaux.
J'ai quitté Bordeaux en 1942, j'ai tout fait. Pour une raison qui n'a rien à voir
43.
Avec une opinion politique, puisque j'ai tout fait d'être enfermé par la guerre à Bordeaux.
Voilà.
D'abord affamé, bien entendu. Si je pouvais retrouver mon appétit, Et puis, surtout bloqué, vous savez, par les interdits de toutes sortes qui interdisaient, par exemple, d'aller sur, je dirais, mes étangs landais, qui était mon domaine.
Nous avons demandé Pau. Moi, j'étais déjà professeur à ce moment-là. J'avais succédé à ma mère, succession difficile, parce qu'elle était vraiment excellent professeur. Moi, je débutais, j'étais un petit peu maladroite, disons. Alors, on a demandé Pau. Et on a été nommé à Pau en 43. De sorte qu'on a quitté, on ne sait plus ce qui s'est passé en 1943.
Alors, si vous voulez, quand j'ai été nommé à Pau, j'ai eu des trois rapports avec la résistance. Je crois que si j'avais voulu me donner un titre de résistant, j'ai contribué à des passages dans les Pyrénées, etc. Mais à ce moment-là, je me disais, l'Allemagne est foutue. Alors, raison de plus de ne pas me mêler de cette affaire.
Et vous enseignez au lycée Montaigne, à Bordeaux. Après,
au lycée de filles, rue Mondenard.
À rue Mondenard. Ouais. On n'avait pas connu un nommé Larose, donc.
Bien sûr.
Oui, parce La que c'était Rose... le traducteur et c'était un de vos collègues. Je...
Il était prof au lycée Montaigne.
Montaigne,
mon collègue, Larose.
Oui. Je l'ai rencontré.
Et j'ai assisté au rapport très ambigu des résistants et de Larose. Oui. Larose, qui probablement aurait pu dénoncer tout le monde, faisant des petits rapports, Dos probablement lui disant « Vous n'avez qu'à les surveiller pour voir si ça ne devient pas trop dangereux.
» C'était ambivalent.
Je me souviens, ce brave Hébert, il était plein d'indulgence quand même pour Larose. Il disait « C'est un brave type. » Yves Hébert, parce que ça a été notre bon ami. Yves Hébert,
professeur de maths, si vous voulez, brave, parpaillot, bon chrétien, parfaitement désintéressé. Quoi.
Les contacts avec les élus étaient réguliers là, jusqu'à ce que vous partiez à Pau ou...
Pendant la guerre,
je
n'ai eu, pour ainsi dire, aucun contact avec qui que ce soit, sauf cette visite à Paris avec Pierre Prévost. Voilà. Même je n'ai pas eu de contact avec mes amis intimes luxonnais, puisqu'on était séparés.
Oui, ils étaient à l'autre bout de la France, ils étaient du côté de Toulon. En zone libre.
Ça, c'est quand, si vous voulez, la guerre, c'est le moment des grandes fusions et par ailleurs de l'extrême isolement.
C'est sûr. C'est
le... On avait parlé ce matin du thème des voyages, Daniel. L'importance, parce qu'on revient un peu et on terminera peut-être par là pour se reposer un peu, au niveau de la. De votre pensée globale aussi sur la nature.
Et ça, je dois dire que. La nature, pour moi, était un besoin vital, avoir un contact avec elle, le pouvoir ouvrir les yeux sur sa richesse, sa variété incroyable qui fait qu'on ne peut la connaître qu'en avançant à pied, pas à pas, sac au dos. Et alors, à ce point de vue-là, l'Espagne, pour moi, jouait un grand rôle, parce que l'Espagne de l'époque était réduite au circuit Saint-Sébastien-Madrid-Grenade. Et alors, vous avez tout le monde de la campagne des Sierras espagnoles qui était absolument intact. Vous savez, où je retrouvais non seulement la nature, mais une société qui avait disparu en France, peut-être depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire une société rurale, vivante, quoi. Alors pour moi, c'était un dépaysement. Je n'avais pas besoin d'aller à Tahiti, vous savez. Je n'avais qu'à aller dans l'autre versant des Pyrénées, pas plus loin, pour pouvoir marcher dans la vallée de la Noguera Pallaresa pendant 100 kilomètres, sans rencontrer de route, en trouvant des paysans qui portaient le costume des montagnards catalans, vous savez, les femmes, le grand chapeau de paille, les vieilles en noir, et je ne parle pas en fédile, la seule que j'ai connue, que j'ai pu me payer avec le peu d'argent que j'avais à l'époque comme étudiant, en stockant celui que je subtilisais à mes parents, vous savez, j'ai été aux îles Canaries, où... À ce moment-là, il n'y avait que quelques implantations complètement isolées. Sitôt que vous quittiez Tenerife, vous découvriez l'île de Gomerne, et une île du Pacifique. Vous savez, vous découvriez l'émerveillement de se promener dans des forêts de lauriers géants, où vous voyez des cascades comme à Tahiti, où vous baignez là-dedans. Vous savez, tout ça, on peut dire à 3 jours de bateau de Cadix. C'est ça. Alors toute ma jeunesse a joué un rôle très important, d'autant plus que c'était aussi une forme de prosélytisme de ma part. J'ai aidé des camarades à se balader en Espagne, notamment mon ami Elu. Pendant cette première période de connaissance, je l'ai amené, vous savez, à l'autre bout de la péninsule ibérique en Galice, ou alors on y allait d'une façon épatante en plein hiver, encaissant les coups de tabac du golfe de Gascogne avec un vieux cargo qu'on prenait, on peut dire, aux portes de Biarritz, à Passarres, et qui vont mener jusqu'à la Corogne. Quoi. Et de là, ensuite, on se déplaçait en bus ou dans la montagne à pied, vous savez. J'ai comme ça mené mon camarade Gusdor, mon camarade, si je peux dire, Gusdor. J'ai essayé, au fond, de poser ma question par ce biais aux amis que je rencontrais. Moi.
Par rapport à cette conception de la nature, il y a... Bon, vous avez choisi des camps, vous avez choisi de les faire en montagne. Pourquoi la montagne? Vous auriez pu les faire dans la forêt landaise?
Parce que il me semblait que la beauté grandiose de la montagne était plus explicite de celle de la terre en général que la beauté de la
montagne. Il y avait un côté aussi effort physique.
Et puis il y avait, c'est ça, le besoin, parce que le,
il n'y avait pas de route à l'époque.
Quand j'étais jeune, vous savez, j'étais le contraire d'un costaud, un petit maigre et sec, mais alors en réalité très très résistant et avec un corps qui avait de gros besoins, quoi. Et alors pour moi, la montagne, c'est pour ça que d'ailleurs je n'avais rien de naturiste. Ce que j'ai aimé dans la nature, c'est mon corps à corps avec elle, si vous voulez. Le fait qu'elle m'obligeait à me plonger dans une eau glacée, si vous voulez, à crever un peu de faim pour atteindre une ferme ou une auberge perdue, vous voyez, c'est... elle n'a jamais été pour moi... une mère, elle n'était que la nature, mais alors je l'aimais, je crois, profondément telle qu'elle, me donnant la vie avec la dureté de sa conquête et avec, finalement, la mort qui en était le prix, si vous voulez.
En termes sensibles, quelle est l'importance pour vous dans la nature de l'eau et du feu? Les feux de Caen, les feux de la Saint-Jean, faire un feu dehors, avec... et puis l'eau...
J'ai beaucoup aimé le feu. Je ne peux pas imaginer une maison sans feu, encore aujourd'hui. Mais alors, je crois que j'ai été surtout un homme de l'eau, si vous voulez. J'ai beaucoup aimé la mer. J'ai eu le privilège de ne pas avoir le mal de mer, ce qui m'a permis d'en profiter au cours de ces traversées de cabotage. Et j'ai adoré les rivières où je me plongeais tout en étant très mauvais nageur, et surtout ce qui me reliait à l'eau, source de vie, c'était la passion du poisson. J'étais un pêcheur, non pas un grand pêcheur, un mauvais pêcheur, mais un pêcheur passionné. Quoi. Et de mon enfance, si vous voulez, à ma mort. Quoi. D'ailleurs, ça se termine par le fait que je ne peux plus attraper un poisson dans cette rivière enfin modernisée.
Oui, qui est non pas votre faute, mais celle de la dégénérescence de cette rivière. Au niveau de votre génération, le contact à la nature, à travers, je dirais, les auberges de jeunesse, la découverte de la mer via le Front Populaire, ou dans toute l'Europe d'ailleurs, des jeunes vont quitter leurs parents, partent en couple ou en copain, avec un sac à dos, faire du camping dans la nature. C'est pas une caractéristique de votre génération de découvrir une nature qui est encore à découvrir avant que le tourisme et la modernité que nous connaissons la dénature sans jeu de mots.
Et puis surtout une nature qui est indissociable de la liberté de choisir ma route, mon lieu de camp, s'il le faut d'installer ma tente en pleine forêt landaise sans qu'un garde forestier ou celui du parc national ou régional vienne me l'interdire et me déporte dans un camping.
L'Europe et la France, il y avait encore la nature libre à conquérir.
Campagne française, ouais, de Vidal de la Blache était une merveille de beauté, d'harmonie, ouais, entre l'homme et la nature, et elle était en même temps un espace complètement approprié. Il n'y avait pas un maître qui n'appartint à une famille, une commune, et en même temps, c'était un espace parfaitement couvert, qui faisait que je pouvais, en Béarn, par exemple, aller ramasser les cèpes dans la propriété de tel paysan, ou, loin de me l'interdire, à l'époque, on me disait, mais n'allez pas là, vous n'en trouverez pas, voyez. C'était ça la nature pour moi.
Comment expliquez-vous qu'un petit enfant des villes, qui était, comme vous nous disiez, enfermé dans la ville, ait eu l'amour des paysans, de la nature campagnarde, et finalement ait été très accroché comme archétype de vie quotidienne et de vie existentielle, au monde de la campagne, à ce monde paysan? Qu'est-ce qui vous a attiré? Vous êtes finalement dans votre jeunesse, vous en avez été relativement éloigné, la ville d'Agen, Bordeaux, le modèle de la ville bordelaise, votre profession d'enseignant dans des villes. Comment avez-vous été attiré par, je dirais, ce vieux monde rural et paysan ancestral?
Je pourrais dire que c'est la ville que j'ai connue qui m'a fait don de la campagne. C'est parce que, une fois de plus, on retombe, si vous voulez, dans ce sens de la contradiction, de l'ambiguïté de toute vie. Quoi. C'est parce que j'étais enfermé dans Bordeaux que j'ai adoré mes errances sur le long du cours sinueux et secret des rivières landaises, par exemple. La solitude incroyable, pourtant, que les Bordelais ignoraient. Je peux vous dire, la bourgeoisie bordelaise était complètement ignare. Aller au bord de ces lacs splendides, surtout la côte ouest, qui, avec des paysages à la japonaise, vous savez, des écroulements de dunes couvertes de pins sur une bordure de sable, des pointes s'avançant dans le lac, avec quelques pinces découpant en ombre chinoise, hein. Eh bien, tout ça, c'était à portée de ma main à Bordeaux, et j'en étais quasiment le seul propriétaire. Je trouvais mon plaisir, par exemple, avec quelques copains, je me vois avec ce malheureux Bassin sur le lac de Cazaux, parce que j'y allais exprès quand il faisait très mauvais. Alors, c'était à la fois dangereux et sans danger. Il y avait de belles vagues, hein, déjà, quand il y a un coup de vent sur 10 km. Mais alors, mon plaisir, c'était de me battre en ramant, vous savez, et puis alors, surtout, de traîner une cuillère derrière le plateau pour essayer d'attraper des brochets et des perches. Et j'ai fait des séjours paradisiaques, je dois dire. Notamment, je me rappelle le cadeau que m'ont fait mes parents à la suite d'une typhoïde qui avait failli m'enlever, vous voyez. Alors, je suis allé me reposer après ma réussite au Bachot pendant plus d'un mois dans une auberge de campagne perdue au sud du lac d'Ourthe, qui est devenu une banlieue maintenant. Et là, j'avais le lac d'Ourthe, moi, tout seul, quoi, avec un bateau, bien entendu. Non, mais je trouve que vous me faites cracher tout mon toute ma vie.
Oui, je me demande.
On va ça.
Demain. Ça sera pour demain.
Alors voilà.
Bon, alors Bernard, ce qu'on peut peut-être essayer d'aborder maintenant, c'est ce qui s'est passé en gros à partir de la fin de la guerre, la possibilité, disons, de réunion, de communication et d'expression a été quand même rétablie, et que les gens ont été moins séparés par les événements.
Oui, ce qui est frappant, effectivement, c'est que la fin de la guerre a permis un rétablissement des contacts qui avaient été rompus pendant la guerre. Alors, ça a pris la forme d'un camp, une fois de plus, qui a été tenu à Torris, dans un lieu abandonné des Corbières, quoi, où étaient réunis, alors, Henriette,
Il y avait Lulle, Bichon, Luxoni, Hébert, je crois. J'en suis pas sûr. Et sa résuel père.
Il y avait Colette Dubuisson.
Colette Dubuisson.
Une physicienne.
Oui. Je ne me rappelle plus.
Voilà. Alors là, on a repris contact. La première question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on doit admettre des communistes? Il faut se rendre compte, c'était, on peut dire, la grande époque du stalinisme. Et alors, j'ai refusé. Je me suis aperçu que là, j'étais toujours un peu différent.
Attends, nous avons eu un premier camp au Croix des Cavales, non?
Non, c'est venu après, le Croix des Cavales. Et ensuite, nous avons eu un second camp au Croix des Cavales, qui a réuni à peu près les mêmes personnes. Mmh. Et puis...
Les cancards.
Et puis alors, un cancard qui est devenu ensuite le grand patron du génie rural dans le sud-ouest, qui a présidé aux belles opérations d'irrigation partout. Et ce représentant de la bourgeoisie bordelaise était communiste.
Oui, très tenté. Ouais.
C'était tout à fait typique de l'époque. Quoi.
Alors, il y a eu de grosses discussions sur le, justement, faut-il admettre les communistes, faut-il...
Oui.
De toute façon, oui. On
mais il semblait que ça s'était posé dès le début, quoi.
Je crois que c'est surtout au
du tout.
Deuxième
c'est à cause de la présence de camp.
Oui, c'est ça, c'est le deuxième camp.
Voilà. Alors, ça a pris cette forme, et très vite, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à convertir quoi, les participants à mon point de vue, c'est-à-dire celui de la mise en cause du changement radical de nature de la société. C'était le moment, si vous voulez, où régnait la reconstruction, ce qui se comprend, quoi, la France avait été bouleversée, il fallait rétablir un peu de moyens et d'ordre. Et puis alors après, il y a eu le démarrage, le grand espoir, c'est l'époque où règne, par exemple, l'idéologie du père Teilhard, dans les milieux ex-vichysois reconvertis dans le christianisme progressiste.
Alors, je me souviens qu'à ce camp de Croz et Cavale, il y a eu de grosses discussions autour de Tocqueville.
Ouais.
Hein, parce que Colette Dubuisson nous reprochait de trop nous référer à Tocqueville, on l'avait découvert à ce moment-là.
Enfin, ouais. Et,
oui, mais je veux dire, là, il était devenu vraiment à la mode et tout le monde en parlait.
Voilà.
C'est tout ce que je me rappelle de ce camp.
Moi, je me rappelle des discussions avec Cancard sur le fait communiste.
Et quel est votre, j'allais dire, vous avez pendant la fin de la guerre et dans le début des années 45-46, vous avez commencé à mettre à lancer des manuscrits.
Oui,
à titre personnel.
À écrire, si vous voulez, ce qui m'a dominé pendant toute cette période, c'était la prédominance du fait politique sur toutes les autres questions. Et c'est pour ça que j'ai rédigé en 47 mon livre sur l'État. Il faut comprendre que ma pensée est toujours tournée vers la réalité. Donc elle est à la fois à distance et engagée dans l'instant. Et alors à ce moment-là, ce n'est pas le problème écologique qui se pose.
Qui domine, c'est le problème politique.
C'est le problème politique.
De la politisation.
Le fait que et le problème politique qui prend dans des milieux intellectuels, alors on peut dire de façon totale, quasiment, l'adhésion ou la complaisance au PC.
C'est alors, ça. Qu'attendiez-vous, disons, de l'action de vos camps et de votre réflexion d'équipe? Est-ce que c'était finalement une action d'influence pour créer une élite avec une réflexion critique qui après allait influencer dans ces lieux de fonctionnement l'action? Bon, est-ce que c'était de tenter de créer un mouvement politique ultérieurement? Quelles étaient vos intentions en faisant ces camps?
Mon intention, si vous voulez, part de l'idée qu'on ne peut lutter contre une société que par la société. Alors, ça allait au-delà d'une... Ce n'est pas pour rien que l'on donnait à ces camps forme de partage de vie quotidienne. Vous voyez, c'était l'idée de créer au sein de la société globale une micro-société où les questions auraient été librement posées par des discussions entre personnes, mais en même temps ayant pour but, et c'est là que j'ai échoué, quoi, un engagement plus profond, par exemple, mise en commun de logements ou des travaux, tout indiqué pour des intellectuels, de communication et d'édition.
Oui, vous, c'était peut-être une communauté voilà. intellectuelle.
J'allais dire qu'à ce moment-là, quand même, il y avait une idée de communauté.
Une communauté, si vous voulez, il y avait ce que peut-être c'est le souvenir. Je ne dirais pas que c'est l'influence de Simmel, si vous voulez. Il y avait l'idée de communauté, ça c'est sûr.
Et vous avez été globalement, là peut-être qu'on anticipe sur l'ensemble de votre engagement et de votre réflexion ultérieure, mais n'avez-vous pas été déçu par ce qu'on appellerait les intellectuels ?
C'est-à-dire, les intellectuels, si on prend sous ce nom les intellectuels notables, connus, enregistrés comme tels par la société, je peux dire que je les ai trouvés nus. Ce qui m'a frappé, d'ailleurs il faudrait revenir sur la guerre, c'est la dépendance de cette prétention intellectuelle d'être libre absolument et au contraire la dépendance, si vous voulez, vis-à-vis des conjonctures les plus grossières.
Des conjonctures, oui, pardon, Ariane.
C'est le moment où j'ai écrit une lettre à Herbart, tu te rappelles ?
Je m'en rappelle. Oui. Figurez-vous qu'Henriette aurait pu faire une carrière littéraire parce qu'elle a écrit une lettre là, au secrétaire de Gide Herbart qui l'a couverte des
noms. Non, mais j'avais écrit une lettre justement pour mettre en question ces milieux intellectuels.
Ouais.
Et alors Herbart a publié la lettre.
Oui,
c'était l'Express déjà.
Oh, je ne sais pas.
Ah, oui. Attendez, c'était l'Express.
L'Express, oui.
Oui, c'est ça, l'Express. Non, c'était Combat.
Ah, dans Combat.
Combat.
Il l'a publié dans Combat.
Non, c'était Combat où s'était recassé d'ailleurs un certain nombre de membres de l'Ordre Nouveau.
Oui,
voilà,
Robert
c'est ça.
Aron,
oui. Voilà, ça, oui.
Et puis, alors, le grand patron, nom d'un chien, j'oublie tout.
Quel grand patron ?
J'oublie tout. Ce Robert Aron, et le grand patron de Combat, c'était pas Camus, c'était un autre.
Freinet.
Non, Pascal Pia.
Ah, Pia.
Pascal Piat.
Oui, il y avait Piat, il y avait...
Freinet.
Henri Freinet.
Non, mais Freinet, c'était plutôt politique, je dis.
Camus, il y a eu.
Il y avait Camus, il y avait Pascal Piat.
Un membre de l'Ordre Nouveau, donc j'oublie le nom, qui a été vraiment un des représentants.
C'était pas l'ami de Prévost
Olivier.
Olivier. Albert voilà. Olivier.
Ah, Albert Olivier, d'accord.
Voilà, ça
d'accord.
veut dire quelque chose.
Oui, oui.
Qui était membre de l'Ordre Nouveau.
Les universitaires, ils étaient essentiellement bordelais dans les camps. Est-ce que vous en avez vu, il y avait Jacques Ellul peut-être, dès le début.
Oui, naturellement Ellul. À ce moment-là, on a commencé à se rapprocher.
Oui.
D'accord.
Mais sur le fond.
Sur le fond
de la pensée.
Dans la genèse de votre livre « L'État », comment d'abord avez-vous eu l'idée de le publier et comment avez-vous travaillé à ce livre ?
Oh, ben j'ai travaillé, j'étais prof, en quelque sorte repli à Pau, puis à l'école normale de l'Escar, continuant ma descente dans les profondeurs sociales. Dans le passage du secondaire au primaire a été marrant. Parce qu'on me l'a accordé comme une sorte de privilège extraordinaire dû au fait que mon ami Pic, prof de philo, était devenu inspecteur d'académie des Basses-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques. Vous voyez ? Alors, je dois dire, ce qui caractérise toute cette période, c'est vraiment l'isolement, je ne dirais pas la solitude, si vous voulez, la solitude personnelle, naturellement, mais une sorte de... J'avais l'impression de subir une sorte de réflexe de défense collective contre une pensée dérangeante.
Bernard, je te rappelle quand même que c'est à ce moment-là que tu as fait une conférence publique sur la bombe atomique.
Non, Mais figurez-vous qu'une de mes poètes, il faut dire qu'en même temps, la libération,
oui. Oui. Non, il y avait du
ça, livre. C'est un autre aspect de la libération, oui. C'était la pagaille.
Oui.
Ah. Alors, n'importe qui pouvait se dire n'importe quoi, et alors à ce titre, devant le préfet, toutes les autorités, à Pau,
et c'était Pic
parce que j'étais l'ami intime
de
du responsable militaire de la résistance de l'armée secrète, Berthoumieux.
Alors, il était l'ami de Béhul.
À ce titre, devant les enfants des lycées, le préfet, etc., j'ai fait une conférence où j'ai chargé
j'espère qu'on va retrouver le texte.
À propos de la bombe atomique.
C'est en 45 alors, ou 46
46.
En 46.
Oui. 46.
Et ça a eu un effet négatif dans un sens. Oh. C'est ça qui vous a fait revenir au primaire ou...
Non. Oh, ce qui m'a fait me faire nommer à l'école normale, c'est la certitude d'un métier beaucoup plus léger, beaucoup plus humain, et de pouvoir vivre à la campagne
en allant
attraper une belle truite avant de reprendre mes cours.
Il ne faut pas
aller chercher.
D'accord.
Dans l'idée de mes amis de gauche, c'était le besoin de se rapprocher du peuple. C'était très secondaire par rapport à ces motifs.
Bien sûr. Et l'ouvrage sur l'État, c'est après la conférence. Comment vous avez pris la décision? C'est pendant la guerre.
C'est concomitant. C'est
concomitant. L'ouvrage sur l'État est lié au fait, si vous voulez, que j'ai eu longtemps le mépris de ce que j'aurais appelé des littérateurs, si vous voulez. Et que c'était pour moi une sorte de honte de réaliser ce genre d'alibi, faute de pouvoir s'engager vraiment dans une action. C'est ça. Alors, mais là, au lendemain de la libération, après cet échec pour fonder une association quelconque, je me suis vu réduit à l'arme individuelle qui est
l'écrit.
Bien sûr.
L'écrit. Alors, je crois que ce qui lui rendait sa noblesse, c'était cette solitude intégrale.
Mais pourquoi avoir choisi de traiter, de faire un ouvrage théorique, historique, sur l'État? Est-ce que c'est une entente avec... Parce que, un homme comme Ellul aurait pu l'écrire, il était historien du droit. Comment est-ce vous qui avez pris cet objet d'étude et...
Si vous voulez, toute ma vie a été dominé par l'idée que il n'y avait de liberté que si un homme était capable de penser non seulement son existence privée, mais son existence sociale et même politique. Parce que je voyais à quel point la guerre, par exemple, la révolution communiste ou nazie avait déterminé juste la vie privée des individus.
C'est quand même l'expérience de la guerre qui t'a mis en train. D'ailleurs, il y a des tas de passages dans l'État qui se réfèrent
à la guerre.
Oui.
Si vous voulez, la guerre m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris notamment que quand les hommes vivent en société, ils vivent dans une sorte de monde clos, illusoire, une sorte de caverne platonicienne assurée par ce que l'on peut appeler des mythes, d'ailleurs très provisoires dans nos sociétés changeantes, mais ou par l'actualité. Voyez, ce qui pour moi était le mensonge contre mon devoir d'intellectuel, ça, alors je crois que j'ai toujours eu cette passion, ne pas mentir. Et pour ne pas mentir, ne pas se mentir.
Très bien.
C'est ça.
Daniel.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la... vous avez terminé l'État en 47. Comment il a été reçu, élu? Et par qui?
Eh bien, figurez-vous, c'est toujours la pagaille de la libération. Comme mon ami Ellul était un...
Persona grata,
il aurait pu faire, à mon avis, en partant à Paris, une carrière éblouissante, probablement, parce qu'il avait à la fois les qualités intellectuelles, la volonté, d'ailleurs, d'être au pouvoir, et
doucement,
l'esprit méthodique. Il est resté à Bordeaux, je crois que ce tournant décisif est dû en partie à mon autorité, d'ailleurs. Parce que moi, je m'étais retiré alors en pleine campagne béarnaise, même pas pour à Mazères, puis à La Rouen, hein, parce que je voulais vivre en pleine campagne. Le métier de prof de Pau avait un avantage extraordinaire, c'est qu'à 3 km de la ville, on était vraiment en pleine. Il n'y avait pas de banlieue. Hein. Voilà. Alors, mon ami Ellul m'a donc soutenu et il a pu refiler au Monde, ce qu'il n'aurait jamais obtenu par la suite, un très gros article d'éloge, d'analyse et d'éloge de mon bouquin.
Disant que on pouvait le commander chez l'auteur, c'est un ouvrage renéotypé, et voilà. Ça avait vraiment, ça a été très... On a eu une grosse correspondance.
Oh, j'ai tout écoulé.
Ah oui, d'accord.
Combien d'exemplaires à peu près?
Oh, ça doit être 400, 500.
Oui, c'est ça, 400 à 500.
Très bien.
Ouais. Et alors, rien que par la correspondance.
Grâce à l'article,
j'ai eu commande. De type comme Servan Schreiber, par exemple, etc.
Oui,
bien entendu, pas pour approuver ce genre de pensée.
Non, mais du moment qu'il y avait eu un gros article dans Le Monde, ça s'est vendu.
Ça, on ne se rend pas compte du rôle du Monde, hein,
ça a été
dans
considérable.
Le milieu, la bourgeoisie intellectuelle. On peut dire, l'oracle.
Oui. Avez-vous été invité à faire des conférences sur cet ouvrage? Par exemple, en avez-vous fait éventuellement à Bordeaux?
Eh bien, ce qui est typique, c'est que j'ai l'art de ne pas me faire inviter. Il faut croire, bien que je n'ai rien, je ne recherche pas ce que je considérerais plutôt comme un honneur, mais vraiment, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi.
Non, tu n'as pas fait de conférence.
Je crois que ma malédiction, c'est que ma pensée ne rentre pas dans le cadre, on pourrait dire, des relations polémiques entre les diverses vérités du jour.
Oui.
Elle est étrange, elle échappe.
Autre chose aussi, et c'est une question, c'est une pensée qui, j'allais dire, n'est pas favorisée par le podium des partis politiques, d'un mouvement d'église, par exemple le mouvement protestant, ou d'une institution comme l'université. Vous êtes seul.
Oui.
Et il faudrait y ajouter le ghetto littéraire.
Et le ghetto littéraire, parce que vous n'êtes pas parisien non plus.
Non, et puis je crois que c'est beaucoup plus important d'ailleurs qu'on pense. J'aurais à conseiller à un jeune homme qui veut faire une carrière d'intellectuel, je lui dirais, ne restez pas à Bordeaux, allez à Paris. C'est bête, mais c'est évident.
D'accord. Daniel, peut-être on pourrait aussi parler de Je fus. Est-ce que c'est, après l'État, quel a été l'ouvrage que vous avez mis en œuvre?
Je fus, quand est-ce que vous avez commencé
non,
à écrire?
Après l'État, si vous voulez, j'ai commencé à écrire, je crois, sur divers sujets. Je ne me le rappelle pas beaucoup.
Théilliard de Chardin, non?
Non, Théilliard de Chardin, je l'ai écrit, je ne dirais pas à la commande, mais ça a été le premier livre publié chez De Noël, et je l'ai fait en toute conscience, parce que je me disais, il y a un tel torrent d'éloges sur le père Théilliard, il vient si bien à son heure. En France, après la mode, il y a la démode. Alors, j'ai employé la formule, je vais me glisser sous la soutane du père Théilliard pour arriver à me faire publier. C'est tombé pile, mais surtout que mon bouquin, si vous voulez, s'attaquer vraiment à la réalité qui se cachait derrière la théologie du père Théilliard pour montrer que ce panthéisme évolutionniste menait à un mépris total de la vie, des souffrances, des individus, si vous voulez, des hommes réels. Et alors j'ai piqué dans l'œuvre de Théilliard, ça a été naturellement censuré un bloc, des textes mortels, notamment ou celui où le père Théilliard extasié, il y en a deux, le père Théilliard extasié regarde les lumières qui s'allument au loin sur le front du chemin des dames avec les projecteurs, les explosions, et il compare ça au départ d'une grande gare vers un avenir radieux. Je dis qu'il aurait tenu ce discours au fantassin qui descendait là, il serait fait
tuer. Fusillé, oui.
Ce témoigne d'un idéalisme, si vous voulez, complètement borné. Et l'autre cri de joie des pertaillards, c'est Hiroshima. Bombe a éclaté, l'énergie s'est déployée. Ça se comprend très bien dans l'idéologie, la théologie du pertaillard.
C'était progrès. Et c'est l'aveuglement d'un certain christianisme face à la science, à l'idéologie du progrès, de la technique, qui va la rencontrer sans esprit critique.
Et qui est, si vous voulez, ça, je rattache ça au mounirisme, parce que qui est aveuglée parce qu'elle a fait un tel effort après l'échec de Pétain pour se resituer un peu plus à gauche, que aller au-delà, alors ça c'est l'impensable.
C'est impensable. Vous nous parliez donc après l'État d'un autre livre éventuel qui n'est pas Je fus.
Mais non, tu n'as pas assez Je fus.
C'est Je fus.
C'est Je fus. Et un Je fus, si même voulez, à Bazaire.
Si
on était encore à Bazaire dans les années 50.
M'amener, si vous voulez, à la racine même de ma pensée. Parce que devant l'isolement total, si vous voulez, l'incompréhension, le refus, pas seulement des éditeurs. Hein. Les éditeurs, ce sont des marchands, ils font leur métier. Hein. Mais les personnes, cette société qui refusait d'être mise en cause était présente dans mon prochain, dans les personnes que je rencontrais. C'est mon ami Germain, je pourrais donner tous les noms que vous voulez,
donnez-les.
De membres de groupe. Oui. Par exemple, mon ami Germain, qui c'est très significatif, qui est passé d'un diplôme de philosophie sur Dostoïevski, d'une carrière de théologien protestant, tenez-vous bien, à la direction du personnel du ministère de l'Intérieur.
Bien la résistance.
Ah mais non, d'accord. À mon avis, aller-retour caractéristique, si vous voulez, parce que vous commencez, vous centrez sur des problèmes spirituels dépourvus de tout enracinement dans le réel.
Oui.
L'expérience, et pour Germain, ça a été la guerre,
la guerre.
Je l'ai vu réapparaître à la fin de la guerre avec des grenades
suspendues
à la ceinture. C'est la révélation du réel, si vous voulez, là, fini de pinailler, les discussions abstraites. Alors, il a passé le concours de l'ENA avec ses titres de résistant. Il est devenu, on peut dire, un des maîtres, surtout qu'il avait le goût du secret. Alors, si vous voulez avoir un vrai pouvoir, j'aime autant vous dire, plutôt que ministre, qui ne font que passer, le directeur d'un grand service.
Du ministère de l'Intérieur.
Alors, le directeur du personnel, c'est tous les préfets à vos pieds. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Et bonjour, monsieur le ministre, sous-entendu, quel vieux con, etc.
Mais je fus, vous êtes. Quelle a été finalement la décision qui vous a fait écrire ce livre sur vous-même et sur vos valeurs? C'était un peu la déception de voir vos.
Je me suis dit, conscient du. Pas simplement, si vous voulez, vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même, du scandale qu'il y a à prétendre connaître seul une vérité, on pourrait dire contre tous les autres, et une fois de plus, pas une société anonyme, mais des amis. Ce débat constant avec moi-même m'a fait découvrir que finalement, j'avais un démon, je dirais en quelque sorte, qui était le démon de la liberté.
Oui.
Que il n'y a d'accès à une vérité quelconque que par la porte étroite de la solitude qui est individuelle. Et alors, ça m'a mené à toute une réflexion, si vous voulez, sur la liberté, qui m'a fait découvrir que, naturellement, je ne peux pas dire quelle est la vôtre, parce que ça dépend des circonstances, ça dépend de ce que vous êtes, mais que il y a une chose certaine, il n'y a qu'un lieu, c'est la liberté. Disons-le cul sec, au scandale de Mounier, c'est la liberté de l'individu. mais de l'individu existant. C'est là la grande différence avec la définition du Larousse qui définit ça comme un atome statistique.
Ouais. Par rapport justement à Je fus, quelle a été la réception de l'ouvrage? Vous avez essayé de le faire publier éventuellement?
J'ai essayé de le faire publier.
À qui l'avez-vous envoyé?
Je n'ai pas essayé. Je me rappelle qu'en Terce, j'ai peut-être pris ça pour une plaisanterie, parce qu'il m'a dit « Oh, c'est dommage de le publier à compte d'auteur ». J'ai cru qu'il se moquait un peu de moi, vous savez, alors que tout simplement, ça devait être son opinion, que c'était impubliable.
Non, mais tu l'as présenté à plusieurs maisons, Bernard.
Non, je me rappelle pas.
Si, tu l'as présenté à Gallimard, tu l'as présenté à...
Non, je ne l'ai pas présenté, non, j'ai présenté mes autres livres, très conscient que Je fus était innégociable.
Oui, peut-être.
Ah, ça, j'en suis sûr.
Oui. Daniel.
Et alors finalement, quelle était sa diffusion, de fait?
Mais là encore, c'était Lulle qui est intervenu.
Attendez, bon. Mais c'est très postérieur.
Ouais,
c'est très...
Non,
c'est
non,
très...
non, mais à cette époque-là,
oui, le manuscrit, dactylographié.
Le texte, je l'ai moi, dans une je l'ai dans une version ancienne.
Oui,
parce que... La première version, elle a circulé.
Il y a eu plusieurs versions, parce que... Je n'étais pas content de la première, que je trouvais trop verbeuse et trop diluée. Oui. Alors, je l'ai revue, je crois, deux ou trois fois.
Trois fois.
Et alors,
ouais. Trois fois et...
La...